m'étonne avec le temps qu'il fait.
Vous voulez boire un verre?
Volontiers.
Oh Adrien, tu me sers deux pastis.
C'est très chaud, non?
Pierre sur pierre de partout.
Tu gourdes?
Et alors, vous voulez pas prendre le pastis?
L'apéro, le rendez-vous estival de Radio Campus Paris.
Je pense qu'on peut démarrer l'apéro.
Constater que la fin de l'été est là et que la rentrée approche, s'apercevoir qu'avec elle, le tumulte du quotidien va venir arracher ceux qui profitaient encore nos derniers instants de calme et de réflexion à leur détente salutaire. Entendre au loin les bruits de la cité qui s'approchent et qui déjà sont en train de reprendre leurs droits, avec leur lot de scandales pour spectateurs passifs et désabusés, de polémiques stériles pour intellectuels démissionnaires et de débats politiques atrophiés pour citoyens tantôt endormis, tantôt enragés. Se dire qu'on aimerait bien retourner à la réflexion paisible et à la torpeur de l'été, mais savoir qu'il faudra bientôt, ou qu'il faut déjà retourner travailler dans des conditions pénibles parfois, pour un maigre salaire souvent, et en se demandant pour certains si c'est bien cela le sens de la vie, si s'épanouir au travail relève du possible ou plutôt de la dangereuse injonction proférée par les divers coachs et autres saints patrons du développement personnel. Et puis, apprendre qu'épanoui ou non, il faudra désormais travailler plus, et surtout plus longtemps, car l'on ne pourrait dorénavant plus permettre de financer le calme bien mérité de ceux qui ont trimé toute leur vie. Assister au défilé des membres du gouvernement et autres chantres du libéralisme sur les chaînes de radio et de télévision qui claironnent à qui veut l'entendre que nous sommes bien impuissants face à un sens de l'histoire qui nous ordonne sans ménagement de retourner sur le champ au labeur. S'interroger quand même, tous ces progrès techniques, toutes ces inventions formidables et ces machines fabuleuses n'auront donc-elles servi à rien, si ce n'est à nous asservir encore davantage? S'entendre dire enfin que l'on n'a pas compris la marche du progrès si l'on croit encore que la société peut avoir d'autres buts que celui de tendre vers toujours plus de rentabilité. Quelle époque tragique que nous vivons, où l'on fait passer les défenseurs du progrès social au mieux pour des utopistes inconscients, au pire pour de dangereux nostalgiques. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans l'apéro, l'émission d'été de Radio Campus Paris. C'est encore l'été, en ce 2 septembre, même si c'est la rentrée des classes. Ce soir, nous recevons quelqu'un dont la voix ne devrait pas être étrangère aux amateurs de radio qui nous écoutent, puisqu'elle se promène sur les ondes de France Inter depuis 1988. Et cette voix produit depuis 2001 l'émission L'Humeur Vagabonde qui nous fait découvrir d'abord chaque soir, puis chaque semaine depuis 2016, un artiste, un écrivain, un photographe, un cinéaste, un plasticien, mais pas seulement. Bonsoir Kathleen Evin.
Bonsoir.
Je suis ravi de vous recevoir pour parler de votre parcours à la radio, mais pas uniquement justement, puisque j'aimerais commencer cet entretien en parlant d'un aspect un peu différent de votre parcours, qui est peut-être un peu moins connu aussi de vos auditeurs. C'est votre engagement politique, si c'est de ça qu'il s'agit, puisque vous avez travaillé donc dans les années 70 pour le groupe parlementaire socialiste à l'Assemblée nationale, puis vous avez fait les campagnes présidentielles de François Mitterrand en 74 et puis en 88, je crois. D'où il vient cet engagement politique? Qu'est-ce qui vous a amené à ça?
D'où vient un engagement politique? D'une conviction, je pense, qu'il faut changer le monde. Vous parliez tout à l'heure des dangereux nostalgiques. Je vais me ranger immédiatement dans ce camp-là. Effectivement, je trouve que, peut-être à mon âge, on peut être désabusé, mais lorsque j'avais 17, 18, lorsque j'étais étudiante, d'abord j'ai fait du syndicalisme et puis... Et puis oui, il fallait s'engager politiquement parce qu'il fallait changer le monde, c'était urgent, ça l'est toujours. J'espère que la relève est là parce que moi, ma génération, on est bien fatigués.
Mais... Justement, est-ce que pour vous, elle est là, la relève? Qu'est-ce qui reste aujourd'hui de cette volonté de changer le monde d'une certaine manière? Vous avez dit dans une interview, j'ai trouvé cette phrase assez intéressante, assez frappante. Vous avez dit, j'ai commencé ma vie en social-démocrate et je vais la finir en révolutionnaire.
Oui, je signe toujours ça, oui, absolument. Parce que, en fait, j'ai fait mes 68, et oui, c'est pas très malin parce que tout le monde l'a fait, n'est-ce pas? Je l'ai fait, j'étais assez désarçonnée par les discours de mes camarades. Je m'amusais beaucoup, bien sûr, mais enfin, il y avait des groupes... Mao, trotskiste, marxiste-léniniste, tout ça prenait la révolution et moi je passais de groupe en groupe et je leur disais mais c'est bien joli tout ça, mais ils sont où les revolvers, les fusils, les canons, les tanks pour faire la révolution? En général, l'histoire nous a appris qu'il fallait être bien armé et qu'on n'en avait pas. Et puis surtout, moi je voulais changer le monde, mais je voulais pas couper les têtes. Et donc j'étais assez... Ils se moquaient de moi tous. J'étais vraiment une social-démocrate. Et puis ensuite, j'étais assez attirée par le PSU, il faut bien le dire.
Michel Rocard, on en parlera.
Absolument. Et puis est arrivé le congrès d'Épinay, est arrivé quelque chose d'étrange, c'est que tout d'un coup, il y avait une vraie gauche au Parti Socialiste. Et voilà. Et j'ai été embarquée. Et puis j'ai passé en juin 71 mes derniers examens. Et puis en septembre, je suis allée à l'amicale des anciens élèves de Sciences Po et j'ai dit « vous avez du boulot pour moi ». Et on m'a sorti 3-4 fiches comme ça, parce qu'à l'époque, c'était des petites boîtes en bois hein, avec des fiches et il y avait des entreprises, des gens qui faisaient appel voilà, aux étudiants de Sciences Po. Et on m'en a sorti 4 qui m'ennuyaient profondément. Il y avait de la pub, il y avait enfin bon, des trucs qui n'étaient pas vraiment ma tasse de thé. Et puis, il y avait une fiche très étrange. Il y avait le groupe socialiste à l'Assemblée nationale, recherche, ce qu'on n'appelait pas à l'époque une assistante parlementaire. On appelait ça, je ne sais pas, secrétaire administratif, je crois. Et voilà. Et j'ai été reçue, j'ai passé je ne sais pas quoi. On m'a demandé de rédiger une proposition de loi, un amendement, un machin, un truc. Je sortais de droit et de Sciences Po, donc tout ça, je savais à peu près la théorie. Et j'ai été embauchée comme ça. À l'époque, le boulot, on le trouvait vraiment facilement. Quoi.
Peut-être contrairement à aujourd'hui, vous avez parlé du congrès d'Épinay. Je voudrais vous faire écouter un court extrait.
Violente ou pacifique, la révolution, c'est d'abord une rupture. Celui qui n'accepte pas la rupture, la méthode, ça passe ensuite. Celui qui ne consent pas à la rupture avec l'ordre établi, politique ça va de soi, c'est secondaire, avec la société capitaliste, celui-là, il ne peut pas être adhérent du Parti Socialiste.
Il en reste quoi de la rupture ?
Rien, des grands mots. Des grands mots.
71, le congrès d'Épinay,
oui,
François Mitterrand.
Oui, bien sûr. Il s'est passé quelque chose entre 81 et 83. C'est-à-dire que c'est vrai que je fais partie de cela, les électeurs socialistes, les militants socialistes, ceux qui y ont cru, c'est normal qu'on se dise désabusé. Mais entre 81 et 83, la vie a un peu changé. On l'oublie, les lois Auroux dans les entreprises, pour les femmes, pour les jeunes, pour les homosexuels, ça a été dépénalisé. Enfin, il s'est passé des choses entre 81 et 83. C'est vrai, la vie a commencé à changer. Et puis, bon, voilà, le mur
depuis
de l'argent, 83, on disait.
Le plan de rigueur.
Oui, oui.
Et il en reste quoi aujourd'hui ? Parce que, j'ai envie de dire, il y a eu d'autres expériences. Il y a eu Jospin en 97, il y a eu les 35 heures. Et puis, il y a eu François Hollande. Et puis, on en est là. On en est à un moment où le Parti Socialiste qui a pu susciter... vous l'avez dit, il y avait une vraie gauche au Parti Socialiste. Aujourd'hui, on se demande où elle est, peut-être. Mmh. Certains se demandent où elle est. Mmh. Est-ce qu'il y a encore ces projets de rupture qu'il y a pu y avoir, de changer la vie, comme vous l'avez dit, de changer la société ? Ça existe encore ? Il y a des gens qui l'incarnent encore au niveau de l'État ?
Qui l'incarnent ? Non, ça existe, oui. Heureusement, il y a des gens qui rêvent toujours de rendre le monde plus juste, la société plus égalitaire, de réduire le fossé entre les plus riches et les plus pauvres. Oui, oui, bien sûr, ça existe partout, mais même aux États-Unis, ça existe. Le problème, c'est que il n'y a plus d'incarnation politique pour ça. Il n'y a plus personne pour porter ces valeurs-là. De temps en temps, alors on peut se raccrocher à une proposition de l'un, une proposition de l'autre, mais autrement, c'est terminé. Enfin, la droite a envahi tous les esprits, y compris ceux des partis de gauche. Je suis désolée. C'est comme ça. Alors, il reste l'écologie. C'est ça, je pense que l'écologie, c'est un vrai levier, c'est sûr. Parce que, comme le pire ennemi de l'écologie... Comme on disait autrefois, c'est la finance, c'est le mur de l'argent, c'est les grandes entreprises. Donc oui, ce levier écologique peut faire bouger le monde. On a changé de... Voilà, on est moins ambitieux sur le fond peut-être, on ne prône plus la révolution, mais on y rêve encore.
Et à propos de révolution, il y a un révolutionnaire, en tout cas un ancien révolutionnaire, quelqu'un qui fut révolutionnaire, et à qui vous avez consacré une biographie en 79, je parle de Michel Rocard, vous avez parlé de votre attirance pour le PSU en 68, Michel Rocard, à ce moment-là, c'est un révolutionnaire. Vous racontez dans le livre qui s'appelle Michel Rocard ou l'art du possible, vous racontez comment il a failli faire basculer si Mendès avait voulu, il a failli faire basculer mai 68 vers la transition, vers un socialisme révolutionnaire au sens propre du terme. Pourquoi on connaît moins cette facette-là du personnage et ce...
Bah parce qu'à l'époque, c'était quand même assez confidentiel, finalement. Il n'y avait pas beaucoup de succès aux élections, il n'y avait pas beaucoup d'audience dans le pays. Et qu'une fois que Michel Rocard est rentré au Parti Socialiste, il a été complètement digéré. Il voulait remplacer le calife, on sait bien.
Et le calife n'en voulait pas.
Voilà, et du coup, il a été obligé de rentrer dans le rang. C'est ainsi que se mènent les carrières politiques.
Et donc, il a fini par devenir, dans l'imaginaire collectif qu'on en a aujourd'hui, quelqu'un qui incarne une gauche modérée, ce qu'on appelait la deuxième gauche. Finalement, une sorte d'aile droite de la gauche. Est-ce qu'il a été autogestionnaire et c'était ça le credo du Parti Socialiste Unifié, du PSU, dont il a été le secrétaire national? C'était l'autogestion, un socialisme autogestionnaire, libertaire presque, comparé aux jacobins mitterrandiens et aux étatistes, en fait. Est-ce que... Finalement, ce glissement de l'autogestion et d'une pensée plutôt libertaire vers le libéralisme qu'on peut connaître aujourd'hui, est-ce que selon vous, ça c'est un danger ? Enfin, est-ce que ça c'est une pente glissante ?
Oui, le problème, c'est que l'autogestion, c'était dans ces époques-là, c'est-à-dire à la fin des années 60 et au début des années 70. Comme beaucoup de projets révolutionnaires, il y en avait partout. Et puis, il faut revoir un film de Chris Marker qui s'appelle « Le fond de l'air était rouge ». Ça raconte ces années-là. C'est pour ça que notre génération, elle est complètement blessée. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas que la France, il y avait l'Amérique latine, il y avait les États-Unis, il y avait tous les pays d'Europe. La jeunesse se rebellait, il y avait des projets qui pouvaient s'appeler autogestion, ou qui étaient une redistribution du pouvoir au niveau de l'entreprise, au niveau de la société. Et puis ça a été maté dans certains pays dans le sang. On se souvient aussi de ce qui s'est passé au Chili d'Allende. Notre génération a compris que ce genre de choses, c'était très bien pour les puissants lorsque ça ne débordait pas les petits cercles étudiants, les petits libelles confidentiels, quelques livres et quelques colloques d'intellectuels, mais que lorsqu'il y avait, par exemple, quelqu'un comme Allende qui arrivait au pouvoir en se revendiquant de ces théories-là, il fallait tout de suite passer aux choses sérieuses. Je crois que ça a déniaisé toute ma génération.
Et aujourd'hui, il n'y a plus d'espoir de voir ce genre d'idée arriver au pouvoir, selon vous.
Non. Je pense qu'aujourd'hui, les gens sont les héritiers de ces déceptions-là. C'est-à-dire qu'ils pensent sûrement que les choses peuvent changer à leur niveau. C'est-à-dire que retisser des solidarités locales, j'aimerais bien voir les gens se syndiquer aussi, parce que les syndicats, c'est important dans les boîtes. Je pense qu'on est à un moment de basculement de la société où tout le monde a cessé de penser au grand soir ou au changement massif au niveau d'un pays et que j'espère voir fleurir les initiatives locales, les solidarités entre les groupes, entre les générations. Je pense que c'est plus modeste, mais c'est peut-être plus réaliste.
Vous avez en quelque sorte, si je me permets, gardé un peu un engagement politique même aujourd'hui. Vous avez participé à la fondation de la SCAM, la Société civile des auteurs multimédia. Vous avez aussi fondé la Société des producteurs de France Inter. Et c'était aussi dans une logique de contrepoids, un peu à ce qu'au plan un petit peu de la direction à l'époque. Enfin, vous avez aussi contribué à ça. Est-ce que c'est aussi une façon pour vous de continuer à... J'allais dire amener le combat, mais sans être dans la martialité, mais à être toujours...
Oui, mais je pense d'une chose toute simple, c'est qu'on est beaucoup plus fort à plusieurs que tout seul. Et que vous parlez de la Société producteur de France Inter, on l'a créée parce que tout le monde pense qu'on est nous qui faisons de la radio, enfin je parle des programmes. Je suis rentrée à France Inter en 88, nous sommes donc cette année. Ça fait 31 ans de CDD. Tous les producteurs de radio, tous ceux qui font les émissions de radio, sont en contrat à durée déterminée. Et donc, c'est pour la direction, c'est un moyen de pression formidable. C'est-à-dire, le CDDU, contrat à durée déterminée d'usage, comme on nous appelle, ça veut dire que nous avons des contrats de 10 mois et que au bout des 10 mois, on peut nous dire, on n'a plus besoin de vous. Vous ne plaisez plus. Votre mission ne plaît pas. On a envie de changer. Voilà. Et donc, c'est un moyen de pression extraordinaire sur les producteurs. On ne la ramène pas trop. J'allais dire, on fait là où on nous dit de faire. Hein. Pendant 10 mois, on a une vraie liberté parce qu'on choisit, on a un concept d'émission, on choisit qui on veut inviter. Mais on sait très bien que le couperet peut tomber. Donc, la création de la Société des producteurs, ça a été aussi pour essayer de fédérer ces gens isolés, pour leur dire, vous savez, si tout le groupe se mobilise pour l'un d'entre vous, c'est quand même plus fort. Bon, ça a duré quelques années. Et puis, ça s'est dissous de sa belle mort.
Parce qu'il y a quand même aussi un piège, un danger, c'est que, pas un piège, un danger, mais un obstacle à aussi faire entendre ce genre de combat, c'est que dans l'opinion publique, on voit souvent, c'est véhiculé aussi par un certain nombre de médias ou de dirigeants, on nous véhicule peut-être l'idée que les gens qui sont dans les médias qu'on entend, qu'on voit, sont peut-être des privilégiés ou des gens qui... Et mais du coup, ça rend le combat peut-être... De tous ces précaires de la radio, de la télévision, ça rend ce combat peut-être plus inaudible.
Ah, mais qu'il soit inaudible à l'extérieur, c'est normal.
Et donc plus difficile à mener.
Nous, c'était une forme de syndicalisme que je proposais, c'est-à-dire de se réunir à plusieurs et essayer de se battre à plusieurs pour un d'entre nous. On a eu quand même quelques réussites, on a fait réintégrer quelqu'un, mais... Voilà, il faut se battre, il faut aller à l'affrontement avec la direction, ce qui n'est jamais très agréable. Et surtout en se disant, nous sommes des précaires. C'est-à-dire que lorsque notre contrat s'arrête, si on a vraiment trop cassé les pieds de la direction, ils ne nous reprendront pas. Ça n'a pas duré très longtemps.
Ça donne lieu d'ailleurs, cette précarité, à une sorte de théâtre, un petit peu de mise en scène chaque fin de saison. On se met à parler d'un mercato, en fait, comme pour les joueurs de football. Et ce qui fait que
Parler des célébrités, ça, je veux dire, ça, c'est un épiphénomène.
Ce qui fait oublier le cœur du métier et ce que veulent dire ces gens-là.
La différence profonde entre ce dont vous me parlez, ceux qui font partie du mercato, c'est que ce sont des gens qui peuvent travailler indifféremment pour les radios commerciales et pour une radio publique. La grande majorité des producteurs de France Inter, comme de France Culture, c'est qu'on ne peut pas travailler ailleurs qu'à la radio publique. On ne peut pas, parce qu'on aime ça profondément et parce qu'on y a une liberté maximale dans ce carcan qu'on nous impose. Mais autrement, on n'a pas d'interruption de publicité à l'intérieur de nos émissions. On peut parler de gens qui ne sont pas les têtes d'affiche de la rentrée littéraire ou du cinéma. On peut vraiment travailler. Et il n'y a que la radio publique qui nous permet ça. Moi, j'aurais jamais pu travailler à Europe ou à RTL. Jamais. Mais d'ailleurs, je vous rassure tout de suite, personne ne m'a jamais demandé d'y aller. Mais... c'est évident, il n'y a pas d'émissions sur les radios commerciales, ce n'est pas des émissions, c'est des tables rondes avec des gens qui baragouinent un truc, qui rigolent, qui font des blagues vaseuses, bon, c'est comme ça, ou parler de sport ou de musique, c'est ça sur les radios commerciales. Sur la radio publique, on peut parler de littérature, de cinéma, d'expositions, de choses très peu connues, et on a le droit de le faire, c'est inouï, vive la radio publique. C'est un trésor national. Quand les gens râlent parce qu'ils payent une redevance, mais attendez, ils devraient supplier qu'on la multiplie par 10 pour avoir que des radios publiques comme ça.
Et la redevance, pour le coup, en Suisse, c'est un peu le contre-exemple. Mais oui, les gens, et c'est formidable, les gens ont...
On les a consultés, ils
ont
dit
voté par référendum il y a quelques années et ont voté pour maintenir la redevance. Et c'est ça qui montre aussi la force de...
Ils sont étonnants, ces Suisses.
Alors, on va continuer de parler de radio publique, de l'humeur vagabonde aussi, puisqu'il en sera question dans la deuxième partie de cet entretien. On se retrouve dans un petit instant.
Radio Campus Paris.
With a burning violin, dance me through the panic till I'm gathered safely in. Lift me like an olive branch and be my homeward dove, and dance me to the end of love. Yeah, dance me to the end of love. Let me see your beauty when the witnesses are gone. Let me feel you moving like they do in Babylon. Show me slowly what I only know the limits of, and dance me to the end of love. Yeah, dance to the end of love. Dance me to the wedding now, dance me on and on. Dance me very tenderly and dance me very long. We're both of us beneath our love, we're both of us above. And dance me to the end of love. Yeah, dance me to the end of love. Dance me to the children who are asking to be born. Dance me through the curtains that our kisses have outworn. Raise a tent of shelter now, though every thread is torn. And dance me to the end of love. Dance me to the end of love. Oh, dance.
the end of it all.
Dance Me to the End of Love de Leonard Cohen. Il est 19h26 et vous êtes sur Radio Campus Paris.
Une autre bière.
L'apéro, c'est le rendez-vous estival de Radio Campus Paris.
Ok, à quelle heure?
À 19h.
Et ben c'est parti, l'apéro.
C'est maintenant.
Je m'attends, petite sœur.
Et nous sommes toujours en compagnie de Kathleen Evin, productrice de L'Humeur Vagabonde, mais pas seulement, sur France Inter. Vous, donc tous les samedis de 19h, de 19h20 à 20h, ça a été la semaine de 20h à 21h, du lundi au jeudi, puis le dimanche, puis le samedi. Vous parliez, avant qu'on s'interrompe, de la précarité des producteurs de radio publique. C'est possible d'avoir de la stabilité en radio ou c'est inhérent à ce métier-là?
C'est-à-dire, dans les radios de Radio France, il y a tellement de statuts différents qui cohabitent. Il y a les journalistes et les administratifs qui, eux, sont quasi fonctionnaires. Ils sont là, ils sont là. Et ils nous parlent de points d'indice, de machins, de trucs, de congés payés, de tout ça. Bon, très bien. Donc là, ils ont une stabilité absolue. Et puis, il y a nous. Moi, j'ai une carte de presse. C'est-à-dire que j'ai commencé ma vie comme journaliste, donc j'ai une carte de presse. Les producteurs de radio, alors qu'on fait un métier de journaliste, on reçoit des gens, on travaille sur des dossiers et on les accouche, en fait. Donc, c'est un boulot de journaliste. Mais les producteurs ne sont pas considérés comme des journalistes. Pourquoi? Parce que s'ils étaient journalistes, ils ne pourraient pas être précaires comme ça pendant 31 ans. Voilà. Donc, la stabilité, elle est assurée par quoi? Il faut que l'émission plaise, il faut avoir des auditeurs. Mais c'est mystérieux, pas forcément, pas seulement. Il y a des gens...
Heureusement que pas seulement.
Oui, c'est le choix de la direction.
Ah oui.
C'est le choix de la direction. La direction aime ou la direction n'aime pas. Alors, qu'est-ce qu'elle n'aime pas, la direction? Elle n'aime pas la personne qui le fait ou l'émission? Voilà. Le débat est ouvert, ça dépend. Ça dépend des fois, mais on ne saura jamais. Enfin, on ne dit jamais à quelqu'un « tu t'en vas parce que ta gueule ne me revient pas ». Mais ça arrive.
Ah oui,
mais et à ce moment-là, c'est l'émission qui ne plaît pas. On dit « non, mais tu comprends ». Ouais, j'ai un copain qui a été viré en juillet. Là. Il faisait une émission sur l'Afrique. C'était un Africain, sénégalais, formidable garçon. Formidable talent de radio, son émission marche très très bien. Il a été, quand il est arrivé à France Inter, c'est parce qu'il avait été viré du Sénégal. Enfin, il a été obligé de partir parce que sa vie était en danger. C'est un type qui parle de tas de choses sur l'Afrique. Il parle effectivement des sapeurs, de la musique, mais il parle aussi des vrais problèmes. On lui a dit qu'il fallait qu'il parte parce qu'il faisait une émission folklorique. Donc, nous sommes perplexes. Je dois dire, nous sommes perplexes.
Que veut dire ce mot, folklore?
Allez savoir.
Tout est du folklore.
Je ne sais pas. En tout cas, il s'en est parmi et ses copains non plus, je dois dire. C'est un peu violent, quoi. C'est un peu violent. Folklorique, c'est quand même un truc, s'entendre dire ça après tant d'années.
Et ça n'est pas un défaut.
Soro Solo. Bisous.
On l'avait reconnu qui animait une émission... Cet été, à 21h, il me semble, une émission musicale et qui a participé à des émissions de France Inter comme Le Nouveau Rendez-vous, notamment la saison dernière, il me semble. Est-ce que finalement la radio publique a cédé un petit peu? Vous avez parlé du nombre d'auditeurs et du fait que c'était un critère aussi pour parfois renouveler ou non une émission. On entend beaucoup parler des chiffres d'audience, tous les trois mois, ça revient régulièrement. Est-ce que la radio publique, elle devient une radio de rentabilité comme les autres ?
De rentabilité, pas autant que les autres dans la mesure où on a quand même un budget qui nous est accordé par la tutelle, mais oui, ça ne vous a pas échappé que depuis quelques années, nous sommes rentrés dans le nouveau monde. Le nouveau monde
avec des guillemets.
De la performance, de l'audience, de la rentabilité, de la flexibilité, de tous ces mots formidables. Moi, je suis rentrée dans une radio où je n'entendais pas parler d'audience. Alors. Mais moi, je suis un dinosaure, donc ce n'est pas très grave. Je fais partie de l'ancien monde et je partirai avec lui, définitivement. Mais oui, on ne nous en parlait pas. On ne nous en parlait pas. Moi, je suis rentrée dans une radio qui était dirigée par ce qu'on appelait les grands serviteurs de l'État à l'époque. C'était des gens bien élevés qui nous saluaient dans les couloirs et qui étaient là pour nous protéger, en fait, souvent des incursions du politique, parce qu'il y en avait déjà. Parce que pour les politiques, on était leur radio, donc il fallait quand même... Il fallait faire barrage, ils faisaient bien barrage ces gens-là. Et puis petit à petit, au fil des ans, les choses ont changé. Et maintenant, effectivement, on parle de tas de choses sonnantes et trébuchantes. Enfin, oui, il faut pouvoir vendre bien nos spots de pub, puisqu'on en a maintenant. Il faut qu'on parle de nous, il faut qu'on crève les écrans, puisqu'on fait aussi de la radio filmée maintenant. Donc oui, on est rentré dans le nouveau monde. Alors, il y a quelques dinosaures qui sont un peu laissés comme ça sur le côté, un peu étonnés. Mais rassurez-vous, il n'y en aura plus bientôt. Il n'y aura que des gens du Nouveau Monde.
Et c'est fort triste ce que vous nous dites. Parce
non,
que ça veut dire
pas.
Qu'il y a une sorte d'uniformité ?
Non, parce qu'il y aura toujours des personnalités. J'espère qu'on entendra les différences, bien sûr, on les entendra toujours.
C'était le slogan de France Inter, d'ailleurs. Écoutez la
différence. Ça a été le plus beau slogan de France Inter. C'était dû aussi à Pierre Bouteiller. Voilà.
Pierre Bouteiller, justement, c'est lui qui vous a fait rentrer à Radio France et à France Inter dans son émission, c'était en 88. Et vous racontez qu'il vous avait recruté, je vous cite, pour votre
pour ma méchanceté.
D'endur, votre côté acerbe. Vous en avez gardé ce côté-là, de cette virulence ?
Oh, je sais pas, c'est à vous de le dire. Faut dire, je fais plus de politique maintenant à la radio. Je suis rentrée chez Bouteiller pour faire des chroniques politiques. Et il l'a pas dit à l'antenne, il l'a pas dit comme ça, mais il me l'avait dit à moi. Il m'avait dit.
Non, vous l'avez raconté, c'est déjà.
Je veux que tu me fasses radio vipère. C'est violent quand même.
Bon, c'est précis.
Voilà, donc ça voulait dire qu'il avait perçu chez moi un méchant travers qu'il a exploité pendant quelques années. Et puis après, il est devenu heureusement directeur de France Inter, donc j'ai eu une émission et j'ai cessé d'être méchante. Enfin, je crois. Enfin bon, pas tout le temps en tout cas.
Alors avant l'humeur vagabonde, on va y venir à l'humeur vagabonde, mais avant l'humeur vagabonde, vous aviez donc plusieurs émissions, Suspension de séance ou d'autres, et Éphéméride, qui était une émission qui passait le dimanche
après-midi, oui.
Si je ne me trompe pas.
Ouais.
Et le but de cette émission, c'était raconter l'histoire de France à travers la mémoire de la génération qui a connu la guerre. Et ça m'a fait réfléchir parce qu'on arrive à un moment en 2019, mais on est à une époque où les derniers témoins de la guerre disparaissent petit à petit, racontent mais ne pourront bientôt plus raconter. Est-ce que cette mémoire, elle s'efface selon vous ? Est-ce qu'elle reste malgré tout ? Est-ce qu'elle est menacée ?
La mémoire, elle va continuer à être enseignée dans les livres, les cours d'histoire, les intellectuels qui sont là pour ça. Ce qui s'efface et ce qui s'est effacé, c'est ce que représentait cette génération qui avait combattu. Et on ne peut pas regretter qu'il n'y ait plus de génération qui ait combattu. On ne peut pas. Et en même temps, moi qui ai connu ces gens, d'abord je les ai rencontrés à l'Assemblée nationale. Et ensuite, quand j'ai fait cette émission éphéméride, qui est une émission qui me tenait vraiment à cœur, qui a été quelque chose que j'ai été profondément heureuse de faire. J'allais dire profondément fière, sans doute, parce que ça va rester dans les archives de la radio. Et ceux qui viendront faire de la radio après pourront prendre des archives dans ces émissions. Et en fait, c'était des gens, il y en avait qui étaient à droite, d'autres qui étaient à gauche, d'autres qui étaient juste des gens bien, qui s'étaient trouvés dans cette situation des années 30, 40 et 50. Et ils avaient tous quelque chose en commun. Quelque chose qui a disparu de ce pays, qui était qu'ils pouvaient travailler ensemble parfois. Ils pouvaient s'affronter à la tribune de l'Assemblée, se battre au moment des élections. Mais il y avait quelque chose et qui probablement était ce que le Conseil national de la Résistance a mis par écrit au moment de la Libération. C'était des gens qui avaient combattu l'infamie et qui avaient la fierté d'avoir pu bâtir quelque chose à laquelle ils avaient rêvé pendant l'occupation. Une France, la sécurité sociale, bien sûr, tout un certain nombre de choses. Ils avaient pu le traduire politiquement et socialement. Et qu'après, ils se soient recombattus, ceux qui étaient alliés avec les communistes ou pas, peu importe. Ils se respectaient profondément. En disant ça, je pense à des gens que j'ai reçus pour éphéméride. Quelqu'un comme Lucien Neuwirth, qui était un gaulliste, qui votait à droite, etc. Et qui était celui qui, en 67, a fait les premiers textes sur la contraception. Qui a ensuite soutenu Simone Veil, bien entendu. Et en face, les communistes. Moi, je voyais ces gens qui avaient combattu et qui, dans les couloirs, allaient discuter ensemble lorsqu'il fallait se mettre d'accord pour faire passer des textes importants. Et ça, c'était cette génération. Ils avaient affronté quelque chose d'essentiel. Et du coup, leur regard sur la France, sur la politique, leur rapport entre eux, on avait été profondément changé. Ça, c'est fini. C'est fini. Maintenant, les gens se fichent sur la gueule juste parce qu'ils sont dans des partis opposés qui se ressemblent tous par ailleurs. Donc, voilà. Pour ça que le jeu politique, moi, j'ai arrêté de faire du journalisme politique parce que j'en pouvais plus, quoi. J'en pouvais plus.
C'est à cause de ça, de cette violence Vous êtes passé un petit peu de la politique à la culture ou...
J'avais vu disparaître cette génération, les Gaston Defferre, les Lucien Neuwirth, toute cette génération des communistes qui avaient aussi travaillé dans la résistance. Et je me trouvais en face de gens qui leur arrivaient pas à la cheville et qui se battaient pour des choses qui n'avaient plus beaucoup d'intérêt, quoi. Mais... Non, mais surtout, je pense qu'au bout d'un moment, on a l'impression que quand ils ouvrent la bouche, on sait ce qu'ils vont dire. Donc, pour être journaliste, il faut avoir quand même une envie de poser des questions, une curiosité pour le personnage ou le problème qu'on a en face de soi. Quand on sait d'avance que le discours formaté va sortir et qu'on sait, on pourrait l'écrire à la place de celui qui vient, quelle que soit son étiquette politique, il faut changer de métier.
Il ne reste plus que ça, du discours formaté ? Ou il y a encore...
Non.
Il n'y a plus de pensée.
Si, il y a de la pensée pour les intérêts à court terme.
Vous êtes dur avec le monde qui vient. Vous disiez...
C'est pour ça qu'il ne faut pas m'écouter. Ça, je m'entends parler à la limite comme mon père parlait et que ça m'exaspérait. Dieu merci, il faut que ça exaspère les gens qui m'écoutent. Il faut que je ne décourage personne. Moi, je suis découragée, mais j'espère bien qu'il y aura quand même des gens pour se battre et pour faire changer le monde, bien sûr.
Alors, donc, vous avez peut-être pas complètement renoncé, puisque peut-être que la radio, c'est aussi une façon de dire, de proposer un discours qu'on n'entend pas ailleurs. Et l'émission... précisément qui peut-être avait à ce but-là, c'est peut-être L'Humeur Vagabonde, donc 2001, la naissance de L'Humeur Vagabonde, qui était d'abord donc une quotidienne, puis devenue une hebdomadaire. C'est un long entretien, en fait, avec une personnalité artistique, mais pas uniquement. Et puis, il y a aussi un fond social. Parfois, on sent que c'est pas du tout déconnecté de ce qui se passe, de ce qui se passe dans la société. Quelle était l'ambition un petit peu de l'humeur vagabonde ? Qu'est-ce que vous vouliez en faire à l'origine ?
Je voulais faire entendre des voix, des voix qui me touchent, ou faire connaître des œuvres qui me touchent. Ça s'appelle l'humeur vagabonde, donc c'est pas anodin. Ça me permettait de voyager dans des univers différents, parfois avec des gens pas du tout connus, parfois avec des gens plus connus, mais que j'avais un peu l'ambition de faire parler plus profondément. Bon, et vous dites oui, moi, si on s'en tient aux réactions des auditeurs, même si je, dans cette émission, pardon, je parlais de culture, comme j'ai un papier du début, je pense que les auditeurs n'avaient pas besoin de décryptage pour savoir de quel côté de la pensée politique je me situe. Mais au moins, je m'en cache pas. Voilà,
c'est vous avez comme... fait d'ailleurs récemment, un peu avant la fin de la saison, vous avez reçu Leslie Kaplan qui a publié un compte politique sur des crimes visant l'élite un petit peu. Et vous aviez justement eu des mots sur le climat social actuel et sur la façon dont l'élite qui nous gouverne actuellement peut-être une tendance à l'arrogance.
Une tendance, c'est joli comme litote, j'adore.
Oui, c'est une litote.
Une petite tendance, oui. on est au 19e siècle, vous n'en êtes pas rendu compte. C'est le retour des maîtres de forge depuis longtemps. Enfin, Macron, c'est un vieillard. C'est un vieillard politique. Complètement. Enfin, qu'est-ce qu'il a de jeune, ce type ? C'est pas possible. Il n'y a que... Enfin... Enrichissez-vous, vous qui avez fait des études.
Guizot, ouais. François Guizot, 1848.
Eh bien voilà, on y est. Enrichissez-vous. Ceux qui ne sont pas milliardaires, c'est des ratés. Et on ne va pas quand même mobiliser un gouvernement pour des ratés. Non mais vous vous rendez compte ce qu'on entend depuis qu'il est élu, ce type ? Mais c'est un vieillard. Il devrait être à la retraite, ce garçon. Il devrait avoir des charentaises. Et regarder ses placements boursiers, enfin, c'est hallucinant.
Mais pourquoi cette arrogance, ce retour au culte de la richesse, pourquoi c'est revenu ? Pourquoi
Mais vous trouvez que ça avait disparu ?
Non, ça n'avait pas disparu, mais pourquoi ça perdure ? Pourquoi
Non, pourquoi c'est devenu si féroce ?
Justement, je vous pose la question.
Je sais pas, c'est le nouveau monde, c'est comme ça. C'est surtout
les gens sont devenus comme ça.
Non, c'est surtout parce qu'en face, il y a pas de défense, il y a plus de défense. Pourquoi ? Parce que quand la gauche a été au pouvoir, elle a coupé les jambes de ceux qui croyaient en elle. Donc, qui voulez-vous qui descende se battre ? C'est ça qui est terrible, c'est que à force d'avoir démoralisé et humilié les électeurs de gauche. Tuer les militants, qui va aller se battre contre Guizot ? Personne. Il y a plus personne. Il y a plus personne.
Sur ces
on ne pourrait pas parler de choses plus.
Non, on va en parler dans la prochaine partie de cet entretien, juste après une deuxième pause musicale.
L'apiculteur se meurt. Il a eu son heure. Il a fait son beurre. L'apiculteur. D'air en air, l'apiculteur effleure la fin du labeur. Happy, happy culture. dans une autre vie. Les marguerites, ces feuilles de ralenti. Personne n'est vainqueur. Les proies, les prédateurs savourent le nectar d'une pomme d'api. Happy, apiculteur. L'heure, c'est l'heure, on n'est pas d'humeur à verser des pleurs. Fiers sont les ouvrières, le jour en tailleur, le soir en guêtière. Quand la mort vous susurre, les serments veloutis, que rien n'est moins sûr, n'aura plus d'importance, ni la chaleur, ni les piqûres. Happy, apiculteur. Happy, happy culture. Der en air, happy culture se meurt. Trouve l'interrupteur. Une oasis, vous allez border des panneaux. Que la splendeur n'effraie plus. Happy, happy culture. Happy, happy culture.
De l'apiculteur d'Alain Bachung, il est 19h48 sur Radio Campus Paris.
Garçon, deux bâtisses doublées, trois frites.
Pour un picon bière, c'est moitié-moitié.
L'apéro, jusqu'à 20h sur le 93.9.
Rafraîchissant.
Oui.
Et Kathleen Evin est toujours avec nous pour parler de radio, notamment, et de culture aussi, puisque c'est... on va dire le thème, mais ce serait presque réducteur, de L'Humeur Vagabonde, l'émission que vous produisez sur France Inter le samedi soir, maintenant de 19h à 20h. Et à propos de l'horaire, je vais vous faire écouter une archive de Jacques Salbert, qui était un des dirigeants de l'ORTF dans les années 70.
Non, ce n'est pas nouveau. On a souvent tendance à opposer la radio à la télévision, et même à considérer la radio souvent comme un vieux machin qui date d'avant-guerre. Bon, évidemment, je suis d'accord, lorsqu'il y a de bons programmes à la télévision, la plus grande partie de l'audience est hypnotisée par le petit écran. Mais je vous rappelle que France Inter émet 24 heures sur 24 et que la télévision française est encore loin du compte pour l'instant. Donc, il y a des heures privilégiées pour la radio, les heures où il n'y a pas de programme télévision. Et ce sont ces heures dans lesquelles nous essayons de mettre des programmes spécialement attractifs et que nous soignons particulièrement. C'est le cas notamment à 9h du matin avec Pierre Bouteiller, et vous connaissez presque tous cet indicatif.
Bonjour.
Quand on écoute régulièrement votre émission, on a quelquefois l'impression d'un immense bric-à-brac où on parle un peu de tout.
C'est exact. Je crois qu'il n'y a pas de limite à cette émission dont la formule est de ne pas en avoir.
La formule est de ne pas en avoir. Pierre Bouteiller, à la fin de cette archive de l'INA, ça date de 1973, donc c'était une époque où la télévision ne diffusait pas des programmes tout le temps. Et typiquement, votre émission était de 20h à 21h sur France Inter, alors que toutes les chaînes de télévision étaient en effervescence à l'heure du journal télévisé.
Mmh. Ça me touche beaucoup, cette archive de Salbert, parce que lorsque... On a fait un an après la mort de Pierre Bouteiller, on lui a rendu hommage dans un des studios de la Maison de la Radio, et c'était cette archive que j'avais choisie pour ouvrir la soirée. Et donc je la connais bien. Et oui, alors plusieurs choses. Pierre Bouteiller m'a appris ce métier qui est très particulier, qui est de faire de la radio. Il me l'a appris sans me l'apprendre. Je l'ai regardé faire. Et juste, j'ai compris comment il fallait faire. Ça a pris du temps, hein, ça ne vient pas en 24 heures, ça. Mais quand il dit un bric-à-brac, oui, en fait, c'est le bonheur. Ce genre d'émission, voilà. Moi, l'humeur vagabonde, c'est aussi du bric-à-brac. C'est moi qui choisis et on passe d'un sujet à un autre et c'est très bien. Lui, il faisait plusieurs sujets dans une heure. Moi, je préfère avoir qu'un seul invité, qu'un seul sujet, c'est sûr. Alors, deuxième partie, 20h-21h. Oui, oui, mais on avait des très, très bonnes audiences en quotidien.
C'est peut-être l'ambition de la radio aussi,
bien sûr.
De proposer autre chose
bien
que
sûr.
La télévision.
Mais oui, oui, les gens... Et alors, moi, ce que j'aimais particulièrement dans cet horaire de la quotidienne, c'est que les gens qui... Parce qu'au bout d'un moment, il y a des auditeurs qui, à force d'envoyer des mails, ont fini par reconnaître leur nom, etc. Et en fait, mes préférés, c'était ceux qui m'écrivaient pour me dire. Hier soir, j'étais en train de préparer une daube avec des macaronis gratinés et tout ça. Et pendant que je hachais mes petits oignons, mes petits lardons, je vous écoutais, j'écoutais machin, machine, etc. C'était formidable, ça allait être. Et les gens m'écoutaient en préparant le dîner pour chez eux. Beaucoup disaient, on a couché les enfants, on est avec ma femme... On prend un petit verre de blanc, on se prépare notre petit frichti, on vous écoute, c'est le bonheur. Voilà, ça c'est la magie de la radio. Ils avaient leur transistor dans la cuisine, il n'y avait pas d'image, ils n'avaient pas allumé la télé, ils écoutaient les gens qui parlaient dans cette émission. Mais voilà, c'est des cadeaux que la vie m'a fait, j'en reviens pas, je suis tellement, tellement reconnaissante.
Cette immersion dans le quotidien, elle est pas possible avec la télévision. C'est pas possible de regarder la télévision en préparant à manger.
Ouais. Non, le Suisse le plus con de la terre, là, selon la belle expression concernant Godard, il avait cette phrase formidable. Il a dit beaucoup d'abrutis, de choses débiles, mais il a dit ça. Il a dit quand on va au cinéma, on lève les yeux. Quand on regarde la télévision, on les baisse. Ça, c'est vraiment bien noté parce que je regarde la télé, hein. Rassurez-vous, j'adore les séries américaines. Mais c'est vrai que la radio, le mystère et la magie de la radio, c'est qu'il n'y a pas d'image et que les gens écoutent ce qu'ils se disent et leur imagination galope. Voilà, ils ne savent pas comment on est coiffé, quelle tête on a. Si... Voilà, mais ils entendent ce qu'on dit parce que l'image ne vient pas les perturber.
Imagination galope, c'est un bon mot de la fin pour résumer ce que peut être la radio, ce qu'elle peut proposer d'original d'innovant et de toujours nécessaire. Merci beaucoup, Kathleen Evin, d'avoir été à notre micro.
C'était un plaisir. Faites de la radio, surtout. Faites de la radio.
Plaisir partagé que celui de vous avoir à notre micro. Merci beaucoup d'avoir été dans cette émission L'Apéro et puis belle soirée à vous.
Merci, au revoir.
Dans un instant, les prescriptions culturelles un petit peu culturelles de Léa Hurel.
Une autre bière.
L'Apéro, c'est le rendez-vous estival de Radio Campus Paris.
Ok, à quelle heure?
À 19h.
Eh bien c'est parti, L'Apéro.
C'est maintenant.
Bonjour ma propre petite sœur.
Bonsoir Léa.
Bonsoir Hugo.
C'est à vous.
Merci, bonsoir à tous et à toutes. Alors pour cette chronique prescriptive finalement, j'ai cherché à vous redonner envie d'aimer le mois de septembre. Oui, je sais, vaste ambition. Bon ok, Paris n'est plus une ville uniquement parcourue par des touristes. Le métro sent toujours pareil. Les cours reprennent bientôt pour celles et ceux qui étudient et le retour au bureau est rude pour les autres. Car à la machine à café, vos collègues veulent absolument et systématiquement vous montrer des photos de leur adorable progéniture. Généralement en brassière et bouée, sautant dans les piscines ou encore harnachés comme des petits saucissons en faisant de l'acrobranche. C'est vrai que ça envoie moyennement du rêve. Mais ne désespérez pas, j'ai trouvé mieux que de continuer à se tartiner allègrement de mon œil tous les matins. Mieux que de dévaliser Truffaut pour remplir son appartement de palmiers. Ou que d'écouter en boucle tous les soirs pour s'endormir la piste 16 Rouleau sur l'Atlantique du très prisé CD Ambiance et Sons de la Nature. Je ne sais pas si vous le connaissez.
Non, mais je crois que...
Bah, si je peux me permettre une rapide digression sur ce CD, j'aimerais bien que l'on m'explique un jour en quoi cette compilation est censée être relaxante, parce qu'entre le plic-ploc de la piste 7, une fontaine en montagne qui me donne juste envie d'aller aux toilettes toutes les 5 minutes, la piste 9, la prairie est aux insectes, qui tient plus du cauchemar phobique que de la sieste tranquille en Bourgogne, et surtout, et ce n'est pas une blague, c'est vraiment sur le CD, la piste 3 qui s'appelle « Dortoir de babouin ». Là, l'avantage, c'est qu'il n'y a pas besoin de description. Je pense que vous avez une vague idée du son que cela peut produire. Et sinon, eh bien, je vous invite à aller écouter cela chez Nature et Découverte. C'est une petite pépite musicale. Bref, je reviens au sujet du jour. Comment se croire encore un peu en vacances en septembre? Comment prolonger l'été finalement au maximum? Eh bien, selon moi, la solution est de profiter des événements culturels et souvent en plein air que Paris et ses alentours ont à vous offrir en ce moment. Car rien de mieux qu'un festival en famille ou qu'un concert entre amis pour retrouver l'ambiance estivale. Et en ce mois de septembre, il y en a vraiment pour tous les goûts. Pour vous aider à choisir, je vous propose donc ma petite sélection personnelle qui n'est bien entendu ni objective ni exhaustive. Tout d'abord, il y a le toujours très qualitatif festival Jazz à la Villette qui a démarré jeudi dernier déjà, qui propose de nombreux concerts tous les jours jusqu'au 10 septembre. Le festival se déroule dans le décor verdoyant du parc de la Villette et ses alentours, donc du très intimiste atelier du plateau à la nef nord en fait de la grande halle de la Villette, en passant par la grande salle de la Philharmonie de Paris, l'espace Charlie Parker ou encore le cabaret sauvage, vous saurez assurément trouver votre bonheur. Ensuite, ce samedi 7 septembre, il y a la ville de Puteaux, qui est près de la Défense, qui organise sa séance annuelle de cinéma en plein air. Et ce sera Grise, cette année, le classique des classiques de la comédie musicale, qui sera projeté sur l'esplanade de l'Hôtel de Ville. Une belle manière, finalement, de le redécouvrir. Pour celles et ceux qui ont envie de quelque chose de plus remuant ce soir-là, foncez à Malakoff pour la soirée Rouge Gorge, dédiée cette fois-ci au rap à l'espace Angela Davis. Donc c'est une soirée qui est organisée par l'association La Régie. Elle est à prix libre, dans une petite salle où l'ambiance est toujours au rendez-vous. Et outre des artistes de qualité, il y aura des super bières artisanales, du punch maison et des bénévoles au top. Bien sûr, il y a le week-end suivant la traditionnelle, et j'irai même jusqu'à dire indétrônable, fête de l'humain à la Courneuve, les 13, 14 et 15 septembre. Bonus, si vous venez le dimanche, vous avez de grandes chances de me voir, un verre de rhum arrangé à la main, en train de me trémousser devant Cassave. Si vous trouvez que je parle beaucoup d'alcool, c'est normal, c'est que nous sommes bien dans l'apéro, autant garder un certain fil rouge.
Toujours, mais avec modération.
Toujours avec modération. Les 14 et 15 septembre, toujours, si vous êtes moins frites saucisses au stand du PCF des Cordes d'Amour, plus livres, tables rondes et conférences, le festival de littérature, les autrices aux grands voisins, est fait pour vous. Des rencontres, des ateliers, des expositions, des lectures, des séances de dédicaces, de quoi dignement célébrer l'écriture au féminin. Et le meilleur pour la fin, votre radio préférée, Radio Campus Paris, bien sûr, fêtera sa rentrée le 22 septembre au Petit Bain. Un atelier radio, des séances d'écoute, une carte blanche à la fameuse Freshlist, des DJ sets de qualité supérieure, une exposition de notre Pauline Le Serre nationale. Venez passer l'après-midi et la soirée avec tous vos bénévoles préférés.
Merci beaucoup Léa pour ces précieux conseils et le plus précieux d'entre tous évidemment, celui du dimanche 22 septembre à Petit Bain, la rentrée de Radio Campus Paris. C'est ainsi que se termine ce numéro de l'apéro. Avant de se quitter, un grand merci à tous ceux qui ont fait cette émission. Merci à notre invité, merci aussi à Alexandra Delbeau et Elodie Hervier qui ont coordonné cette émission, à Antonin Simard qui l'a réalisé ce soir et à Léa Hurel pour son agenda culturel toujours instructif. Et merci à vous, chères auditrices et chers auditeurs, d'avoir été à l'écoute de cette émission. Tout de suite, c'est MapMonde sur Radio Campus Paris. L'apéro revient très bientôt. Passez une très belle soirée.